R comme révolution. La révolution est-elle l'aboutissement du processus de la lutte des classes, du dépérissement de l'État ?
Si on prend les choses par leur commencement, puisqu'il s'agit de parler de la conception chez Marx, il faut prendre le point de départ qui est celui de la Révolution française. La Révolution française a joué chez Marx, mais dans le marxisme également, un rôle de référence capitale. C'est quelque chose à laquelle, indéfiniment, il a fallu se reporter. Et ça, c'est très net chez Marx. Lorsque, dans ses premiers travaux, Marx choisit les thèmes qui lui paraissent importants, il est désireux en priorité d'écrire une histoire de la Révolution française, pour laquelle il a pris beaucoup de notes, mais qu'il laisse tomber tout simplement parce que les exigences de la praxis, comme on a dit une fois précédente, lui imposent d'autres tâches et d'autres centres d'intérêt historique. Il n'empêche que la Révolution française, c'est un thème que retrouveront tous les révolutionnaires après Marx. On va aller chercher dans la Révolution française quels sont ses enseignements, qu'est-ce qu'on peut dire. Ce qu'en retient Marx, c'est que la Révolution, qui s'opère en 89, brise complètement avec un État antérieur, avec un État ancien. C'est ce que les révolutionnaires disent eux-mêmes, il faut en finir avec l'Ancien Régime. Ancien Régime, on peut lire derrière cela « ancien mode de production ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, le développement social brise avec les rapports sociaux féodaux pour en instaurer de nouveaux. De nouveaux lesquels ? Forcément, les rapports capitalistes. Seulement, si on fait une lecture aussi simple que cela de la Révolution française, on va aboutir à l'idée que la Révolution qui s'opère à partir de 89 est une révolution typiquement bourgeoise. C'est une révolution bourgeoise puisqu'elle voit la venue au pouvoir d'une classe qui va remplacer la féodalité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette révolution française qui peut nous intéresser aujourd'hui ? Eh bien, il y a l'idée qui me paraît essentielle que dans la révolution, il y a eu plusieurs révolutions. Et qu'aujourd'hui, nous, si nous regardons la révolution française, par rapport à ce que nous savons du marxisme, c'est ça que nous devons retenir. Il y a eu dans la révolution française, il y a eu incontestablement une révolution bourgeoise. C'est celle qui triomphe avec la révolution contre-thermidorienne. Il y a eu aussi une révolution populaire. Il y a eu une révolution populaire, notamment avec la Commune de Paris. Et il y a eu, ça, des travaux comme ceux de Thomson l'ont montré, il y a eu une révolution paysanne. Il y a une révolution paysanne qui concernait la terre et qui concernait l'exploitation terrienne. Et ces différentes révolutions, à un moment donné, ont été juxtaposées. La Révolution française, disons, va servir à la fois de référence et de modèle pour penser la nécessité du renversement de la bourgeoisie, c'est-à-dire du passage du mode de production capitaliste à un autre mode de production, celui que Marx a appelé socialiste ou communiste. Alors la première idée qui s'impose quand on pense à la révolution et à l'avenir de la révolution, c'est l'idée d'une révolution prolétarienne. La révolution prolétarienne, c'est la révolution qui est conduite par la classe exploitée pour en finir, non seulement avec la classe exploiteuse, mais pour en finir une fois pour toutes avec l'exploitation qui peut concerner bien d'autres classes au-delà d'elle. Il y a donc là-dedans une radicalité qui est absolument incontestable et qui permet d'éclairer la tâche qui est celle du prolétariat. Marx, de manière pas toujours heureuse, parle de la mission du prolétariat, comme si le prolétariat était investi d'une mission, mais en tout cas qui fait éclater la contradiction interne au capital entre le capital et le travail. Entre la classe bourgeoise, qui est la classe possédante, qui est la classe exploiteuse, et la classe prolétarienne, qui n'a à perdre que ses chaînes, et qui donc, dans sa fraîcheur comme ça du commencement, ressemble assez peu à ce que les classes et même la classe ouvrière deviendront dans la suite de l'histoire à travers le développement du capitalisme et le fait que le capitalisme, régulièrement, contrairement à ce qu'avaient pensé les fondateurs, surmonte ses crises, s'ajuste et rend de plus en plus improbable, on le voit bien aujourd'hui, la transformation du mode de production et à plus forte raison son dépassement. La distinction que suppose ce processus, c'est la distinction que Marx fait entre la révolution politique et la révolution sociale. Toute révolution, dit Marx, dissout l'ancienne société, en ce sens elle est sociale. Toute révolution dissout l'ancien pouvoir, en ce sens elle est politique. Ben, disons tout simplement, en utilisant le langage d'aujourd'hui, que c'est la différence entre l'alternance et l'alternative. L'alternance concerne la société politique, l'alternative concerne la société, disons, sociale, oui, l'univers social. On peut donc, par conséquent, très bien renverser un pouvoir politique, le remplacer par un autre, et ne rien changer aux pratiques sociales. C'est aussi la différence qu'il y a entre la révolution, la réforme, bon, etc. Dès lors, cette idée de révolution est amenée à prendre des spécifications différentes. On va parler comme un synonyme pratiquement de la révolution prolétarienne, de la révolution communiste. Sauf que la révolution communiste suppose une étape de plus par rapport à la révolution proprement prolétarienne, c'est-à-dire, disons, par rapport à l'acte révolutionnaire de commencement. Simplement, les affrontements qui peuvent être très violents entre deux classes. Alors, à ce moment-là, la révolution est faite. Il reste à construire ce sur quoi elle débouche, c'est-à-dire le communisme. Et alors là-dessus, il y a tout un nœud de problèmes qui a été exprimé de manière différente. Mais déjà, il y a eu une discussion à la Convention pendant la Révolution française qui a opposé les tenants de l'idée que la Révolution était achevée et qu'il fallait faire autre chose, et puis ceux, comme Robespierre, qui disaient « la Révolution n'est pas achevée, il n'y a pas d'achèvement de la Révolution ». Une fois, un journaliste, ou une journaliste, je ne me souviens plus, américaine, avait posé à Mao Tse-tung la question « qu'est-ce que vous pensez de la révolution ?» Et il avait répondu « il est encore trop tôt pour le dire ». C'est encore trop tôt pour le dire, je trouve cette remarque d'une rare profondeur, parce que ça signifie que la révolution, en principe, par nature, doit être permanente, en prenant permanent au sens propre, c'est-à-dire qu'elle engage un processus de transformation dont on ne sait pas exactement à quel terme il parviendra, ni quand il sera fini. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons une condamnation systématique de la part de toutes les formes sociales, de toutes les organisations sociales, de toute violence, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ça signifie, et ça peut être une démarche idéologique, ça peut être une démarche de naïveté, d'ignorance, d'imbécilité à la limite, ça signifie qu'on assimile révolution et violence et que par conséquent, on croit que toute contestation sociale est une contestation qui emporte la violence, c'est-à-dire le désordre dans une société. Et c'est la raison pour laquelle on voit de bons idéologues qui se réclament du communisme se tailler un succès considérable en affirmant que c'en est fini avec le grand soir, c'en est fini avec la prise de la Bastille, c'en est fini avec la conquête du palais d'hiver, etc., etc. Comme si ces choses-là étaient des idées d'un progressisme bouleversant. Il y a derrière ça la volonté d'interpréter la société et les rapports sociaux en termes de consensus, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire en termes d'accord, d'harmonie, c'est-à-dire que malgré les conflits d'intérêts, On trouve une harmonie, c'est ainsi qu'on pense dans les programmes économiques qui nous sont exposés. On considère qu'on peut bâtir une société de justice où on prendrait en compte à la fois la nécessité pour le patronat de faire des profits et la nécessité pour les travailleurs d'avoir des salaires meilleurs que ceux qu'ils ont aujourd'hui. Bon, alors ça signifie quand même qu'on tient compte des conflits d'intérêts, mais il y a le peuple. Et le peuple, c'est le sac dans lequel on met tout ce monde-là. Alors la question qui est posée à l'arrière-plan de ça, c'est la question de la violence. Toute révolution n'est pas nécessairement une révolution violente, ou que tout au moins la notion de violence doit être prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire non pas un concept, mais un terme qui traite d'une situation déterminée. Je dis ça autrement. Toute révolution dans les rapports sociaux, les rapports économiques, suppose une violence. Mais cette violence peut parfaitement être une violence symbolique, comme l'entendait Bourdieu. Elle peut être une violence dans la transformation du processus d'appropriation. Les ouvriers prennent en charge une entreprise dont ils ont chassé les patrons, ou dont les patrons ont foutu le camp. Ça peut très bien se faire sans qu'on aille sortir les pics, les fourches, etc. Ce qui se produit sur ce terrain-là peut se produire aussi dans ce qui avait été appelé la révolution culturelle. La révolution culturelle qui a tellement fasciné de gens en Europe, et qui était une interprétation de ce qui se passait en Chine, était une révolution qui, en principe, était une révolution qui pouvait amener à la transformation des représentations et des formes culturelles, alors qu'en Chine, il s'agissait de tout autre chose. La révolution culturelle était une révolution contre les intellectuels au nom d'une doctrine qui prétendait favoriser les paysans, y compris en leur permettant d'inventer des fours à fondre le métal. Bon, laissons cela. Aujourd'hui, on voit, contrairement à cette idée dominante du refus de la révolution sous couvert, du refus de la violence, l'enjeu, c'est la question que je crois centrale dans le marxisme, mais dont nombreux ont été les marxistes qui ont prétendu qu'elle ne l'était pas, celle de la dictature du prolétariat. Celle de la dictature du prolétariat, parce que la thèse de Marx est tout à fait claire. Ce qui va définir la révolution, c'est le passage du pouvoir des mains de la bourgeoisie aux mains des travailleurs. Qu'est-ce qui va caractériser cette forme de pouvoir ? C'est quel sera le pouvoir de la majorité, et c'est cela que Marx appelle la dictature du prolétariat. Il n'a jamais invité à considérer que la dictature du prolétariat était une chose impitoyable et surtout sanglante. Non, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a une majorité qui se forme dans le corps social. Alors il peut arriver, naturellement, que cette majorité prenne des décisions qui empêchent la reconquête du pouvoir par la classe qui en a été éliminée. Mais ce qu'indique en tout cas ce processus révolutionnaire, c'est un certain nombre de mesures, et ça c'est dans le cœur du concept marxiste de révolution, un certain nombre de mesures de transformation qui interviennent après le processus révolutionnaire, ou tout au moins dans sa démarche la plus accomplie. Ce sont les mesures que Marx a trouvées dans la Commune, chez les communards, c'est-à-dire telles que les conditions d'éligibilité des représentants, le fait qu'une élection peut être remise en question, que les représentants doivent rendre des comptes, le fait que les juges soient élus, le fait que les salaires ne connaissent pas les différences énormes qu'elles prendront par la suite. Et il y a bien d'autres mesures de ce type. Étant bien entendu aussi que la réflexion sur ces mesures entraîne comme conséquence les limites que vont rencontrer ces mesures. La limite que Marx voit dans la Commune de Paris, par exemple, c'est le fait que les communards, pleins de bonnes intentions, avaient tout simplement oublié de mettre la main sur la bourse. Et ils n'ont pas pris la bourse, ils ont eu bien tort, parce que le capital, c'est quand même là qu'il a son siège le plus connu. Mais la réflexion ensuite qui va se rencontrer chez Marx, encore qu'il faut bien insister sur le fait que Marx et Engels n'ont rien de prophète et que par conséquent, ils n'ont pas défini ni la révolution, ni l'objet de la révolution, c'est-à-dire la société socialiste. Il y a quelques indications comme ça. Il y a la question, par exemple, de ce que deviendront les rapports de classe après la révolution. Est-ce que la révolution va anéantir du jour au lendemain les relations entre les classes ? Non, 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 non. Personne n'a jamais dit ça parmi les marxistes. Et le point sur lequel l'accent a été mis, c'est la question du droit. Le droit qui va être en vigueur après la révolution, c'est le droit bourgeois. C'est-à-dire un droit fondé sur l'inégalité. Aussi longtemps que la révolution, c'est le cas de le dire, n'a pas avancé, pas tout conclu, mais avancé son processus. Mais ça veut dire aussi que l'État va être reconduit aussi. Naturellement, il va être reconduit sous d'autres formes. C'est une des questions que pose la révolution. À quel État aura-t-on affaire ? Il doit être travaillé, transformé, réduit dans la perspective de son dépérissement. Comme le droit, seulement ça suppose des étapes, et comme la démocratie elle-même, dans la mesure où la démocratie est quand même une forme politique de la société de classe. Alors tout ça, naturellement, est très très difficile à penser. Et d'autant plus difficile à penser que si on se réfère à l'histoire, si on se réfère à ce qui s'est passé dans les sociétés socialistes, on s'aperçoit par exemple que une des caractéristiques du stalinisme, si on veut bien prendre cette expression pour une démarche doctrinale et pas seulement pour un certain nombre de soi-disant valeurs qui seraient difficiles de définir, si on prend comme corps doctrinal, l'affaire est très précise, c'est le fait qu'il y a renforcement de l'État après la révolution soviétique, et que Staline va théoriser ce fait comme un enseignement de Lénine, complètement à contre-pied. Ce qui sera entériné, malheureusement, par les partis communistes, et c'est bien ça qui mérite le nom de dogmatisme. De même que seront écartés tous ceux qui essaieront de réfléchir, de prendre au sérieux cette idée du dépérissement du droit. C'est-à-dire des gens notamment comme Pachoukanis, qui a écrit des travaux tout à fait intéressants, mais qui a été écarté. Alors quand est-ce qu'une révolution, parce que c'est une question qui revient souvent, c'est même aujourd'hui, quand est-ce qu'une révolution est mûre ? C'est-à-dire quand peut-on dire que les conditions de la révolution sont réunies ? On pourrait dire dans une société comme la nôtre aujourd'hui, les conditions d'un mouvement révolutionnaire existent. Elles existent à travers le fait qu'il y a 5 millions de pauvres, qu'il y a un certain nombre de millions toujours trafiqués par les chiffres officiels de chômeurs, sans emploi, qu'il y a une profonde inégalité de salaire qui se traduit par des inégalités sociales, parce qu'il y a une politique européenne qui est une politique de constitution d'une rivalité impérialiste européenne avec l'impérialisme des États-Unis ou du Japon, parce qu'il y a une politique extérieure qui finalement accepte que les règles entre les États soient des règles militaires et non pas diplomatiques, voire l'Irak, l'Afghanistan, la Palestine, etc., tout ce qu'on voudra. On pourrait dire que les conditions sont réunies. Et puis quand on voit les élections en France, on se dit, bon, elles sont peut-être réunies, mais en tout cas, pas dans l'expression électorale. Et alors ça aussi, c'est une vieille question à laquelle ont réfléchi les théoriciens du marxisme. C'est l'idée que les conditions matérielles ne suffisent pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle les conditions objectives, qu'il faut qu'elles soient couronnées et nourries, ces conditions, par des conditions subjective, c'est-à-dire par la prise de conscience. Ce que Lénine disait en disant, dans une révolution, il faut que les dirigeants ne puissent plus diriger comme avant, et il faut que les masses n'acceptent plus d'être dirigées comme elles l'étaient. Cette conscience de condition subjective répond elle-même à une condition, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le travail pédagogique, à la fois des luttes sociales, naturellement, mais aussi des organisations ouvrières. Si les organisations ouvrières n'ont pas comme objectif la révolution, ben il est bien évident que les conditions subjectives seront beaucoup plus dures à réunir. Elles peuvent l'être, mais seront beaucoup plus dures. Elles peuvent l'être, par exemple, comme c'est le cas au Venezuela, où les conditions subjectives sont remplacées par l'exploitation du pétrole. Bon. Quand on a du pétrole, la révolution s'en trouve facilitée. S'en trouve facilitée parce qu'on peut immédiatement détourner des sommes considérables d'argent vers la satisfaction des besoins des travailleurs, vers leur accession à des formes d'existence beaucoup plus justes, beaucoup plus confortables. Mais si on n'a que des idées, pas de pétrole, des idées, on sait très bien que c'est tout à fait autre chose, ça ne suffit pas.